Bonjour.
Bonjour.
Bon, je vais essayer de vous parler de mon travail, mais Jean-Michel m'avait dit de parler de l'aspect poétique. Bon, comme vous avez dû voir, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire poétique. Hein. Mais on colle ce terme souvent à mon travail parce que c'est peut-être pas strictement documentaire. Et je vais vous parler de ça. Donc j'avais mis comme résumé de ce que je vais dire la phrase, je ne sais pas à qui ça appartient vraiment, si c'est W.H. Auden ou bien à Robert Frost, que la poésie est ce qui se perd dans la traduction. Et moi, je me suis dit tout de suite, quand j'ai découvert cette phrase, que je n'ai pas toujours connue, que le son est ce qui se perd dans la transcription, parce que on peut écrire un son, mais ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, le son se transmet par l'audition, quoi. Donc, tu as, s'il y a une émission ou une pièce qui peut être transcrite complètement, ça veut dire que c'est peut-être pas une pièce sonore. Parce que c'est pas le même langage. Le son a un langage très spécifique, je crois. À qui appartient des règles, mais qui ne sont pas écrites. On sait quand il y a un truc qui marche, mais on ne peut pas exactement dire pourquoi. Mais on sait que quand ça ne marche pas et quelque chose a été transgressé. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est une histoire de rythme, ou c'est une histoire d'espace, c'est une histoire de silence, ou des choses beaucoup plus basiques comme le niveau. Et l'autre chose que vous pouvez peut-être garder à l'esprit, c'est derrière mon discours qui n'est pas tellement construit, c'est une série de réflexions comme ça, à l'emporte-pièce. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'art radiophonique, ce que moi je ne fais jamais, parce qu'à mon avis la radio c'est la radio et l'art c'est l'art, et c'est comme si c'était quand on parle d'art radiophonique, qu'est-ce qu'on veut dire, hein? Est-ce qu'on veut dire que c'est plus beau ou que c'est plus abstrait peut-être, ou qu'est-ce que ça veut dire? Mais reste derrière ce terme le fait que la radio c'est de l'information et l'art ne l'est pas forcément, bien que ça informe. Et c'est, si on peut parler d'art radiophonique, si la radio peut prétendre être de l'art, c'est sûrement une sorte d'art pauvre. Parce que c'est fait de très peu de choses. C'est fait vraiment de son, de silence, de musique et de parole. Ce qui est très peu. Bon, on peut les traiter, évidemment, mais ce sont les seules matières dont on dispose pour faire quelque chose de sonore, quoi. Et non pas que les termes, non pas que le silence puisse pas être bruyant et la parole être musique et tout ça, mais ça reste dans la même gamme. Alors, ça c'est deux considérations. Le troisième, c'est que moi, je me dis documentariste et les gens le diraient aussi, d'une certaine façon, avec des réserves. Et le documentaire informe. Mais normalement, le documentaire informe en utilisant des paroles. Et les paroles sont vraiment ce qu'il y a de plus banal comme matière. On se sert de langage, de paroles, comme disait Nathalie Sarraute, pour saluer le voisin, pour acheter le pain, pour tout. Et puis on veut faire quelque chose qui est là, ou qui est un objet créé à partir de paroles. De paroles, dans le cas du documentaire, happées au vol, en général. Parce que moi, je travaille, j'utilise du texte, mais j'en écris très peu. Et je prends des paroles, je prends des bouts de réel que je réorganise. Alors, je vais, pour me présenter... Pourquoi je trouve pas la... Vous faire écouter un bout d'une émission que j'espère que vous n'avez pas entendu à la radio. C'est une émission de Thomas Baumgartner qui s'appelait Mythologie de poche. Il avait fait toute une série de gens qui travaillent à la radio. C'est la première partie. Et ça trace un petit peu mon parcours. Mais évidemment, je ne parle pas peut-être de ce que j'aurais parlé, parce que Thomas me pose des questions. Mais Thomas vient du côté... vous connaissez son émission, il fait l'émission son.
Et voilà la mythologie de poche de la radio, nouveau chapitre, bienvenue à vous. La mythologie de la radio de l'été s'intéresse aux ondes qui nous ont accompagnés un jour ou une nuit et qui continuent de tourner dans nos têtes, inscrites en nous parfois sans qu'on le sache, elles ressurgissent à l'écoute avec les morceaux de vie qui vont avec. Il y a toutes les formes d'ondes dans la mythologie et une multitude d'époques, toute la palette de la radio. Et aujourd'hui, les pistes se superposent et se mélangent harmonieusement. Difficile de mettre un mot, un seul mot, pour définir ce que fait notre invité, ce serait trop restrictif. Alors on va parler d'un univers où la poésie, le son, les langues, l'exil, la géographie sont des matières et des inspirations constantes. Notre invité s'appelle aujourd'hui Kay Mortley. Bienvenue, Kay Mortley, merci d'être là.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous et ça se voit à votre visage, les auditeurs ne le voient pas, mais moi je le sens, vous faites partie de ces gens de radio qui n'aiment pas le micro. Je me trompe ?
Non, pas du tout.
Vous préférez le tenir, le tendre vers les gens ?
Je préfère le tenir.
Pourquoi ? Par timidité, par exigence ?
Non, j'estime que je ne suis pas là pour parler à la radio.
Ah oui.
Ou je parle autrement.
Mais vous savez que c'est... original comme position, c'est de considérer la radio en fort enfer, sans vouloir parler dedans, sans surtout en fuyant le micro d'une certaine manière, ou se mettre de l'autre côté.
Non, pas du tout, parce qu'on fait parler et puis on parle autrement. On construit un discours où il n'y a pas forcément sa propre voix.
Justement, là je disais, difficile de mettre un mot sur ce que vous faites. On peut dire où vous avez travaillé et où vous travaillez. Vous avez travaillé à l'atelier de création radiophonique ici, à France Culture, beaucoup, à Surpris par la nuit, un peu à Sur les Dômes, dans cette maison, au Passager de la nuit aussi. Et voilà un petit bout de parcours pour dire les territoires qui ont été les vôtres ici, mais ce n'est qu'une partie des territoires qui ont été les vôtres.
Oui, parce que j'ai commencé ma carrière en Australie, et puis je suis revenue en France, et j'ai commencé très vite à travailler en Allemagne. Et c'était un hasard. Comme même le fait de travailler à la radio était un hasard, c'était pas un choix de mon côté dans un premier temps.
Ça commence comment alors ? Ce non-choix, c'est par. C'est quoi ? C'est un job d'études ?
Ce non-choix, moi je me destinais à l'enseignement du français à l'université, à faire de la recherche littéraire.
En Australie ?
En Australie. Et il se trouve que lorsque j'avais terminé mon doctorat et que j'étais retournée en Australie, il n'y avait plus de boulot à la fac. Et tout à fait par hasard, le premier jour que j'étais là, on m'avait proposé de faire un truc à la radio dans le service français. Et assez rapidement, j'ai commencé à travailler dans le service de dramatique et de documentaire.
Mais comment, sans que ce soit un choix, on se dirige vers ça ? Si on se rend compte, comme vous l'avez dit à l'instant, que ça peut être une forme d'expression pour soi-même, sans passer par la parole dans le micro ?
Oui, parce que justement à l'époque où j'avais commencé à travailler pour ce service documentaire, donc le service de création en Australie, C'était un moment de grande ouverture. Il y avait des piles et des piles de bandes magnétiques ramenées des prix italiens et tout ça par un directeur de service assez éclairé et qui m'avait demandé, parce que je parlais français et allemand comme ça, quoi, et parce que je m'intéressais aux langues, d'écouter beaucoup de choses, de faire des rapports, parce qu'on voulait changer les façons de faire en Australie qui étaient dominées, déterminées par la BBC. C'était un esprit colonial qui régnait. Enfin.
Donc on allait chercher d'autres exemples, d'autres manières de faire, une forme de modernité dans l'expression radiophonique. Le prix italien, c'est un prix européen, excusez-moi, mais pour expliquer, le prix italien, c'est un prix où on trouve des documentaires, des fictions, de la musique, mais c'est de la radio élaborée. Voilà.
Ben, je pense que, je ne sais pas si c'est de la modernité qu'il s'agissait, mais je crois plutôt que c'était l'Australie étant encore très éloignée, et toujours très éloignée, c'était une façon de capter par les antennes autres, des façons de faire, de ne pas rester dans cette espèce d'isolement, trouver d'autres façons d'écrire et de dire et de faire.
Et donc vous nourrissez, vous, à ce moment-là, en faisant ce rapport d'écoute, vous faites une culture, une certaine culture radiophonique.
Voilà. Je me suis formée sous le terrain. Je n'ai pas eu la chance de faire une de ces écoles ou de je ne sais pas quoi. Mais j'ai écouté, j'étais payée pour écouter pendant plus d'une année.
Ah oui.
Et c'était vraiment royal. Et puis je ne savais pas du tout comment ça pouvait se faire, parce que nos façons de mixer étaient assez élémentaires en Australie. Par exemple, quand je raconte ça ici, il n'y avait pas de console de mixage. Et on me dit, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que c'était possible. Et le technicien restait là, entouré de 6 ou de 8 studeurs. Et faire une émission était l'exploit. Et c'est de faire une émission telle que celle que j'avais entendue, où l'évidence de l'écriture technique, aussi bien qu'esthétique et intellectuelle, était vraiment là. Je ne pouvais pas imaginer comment ça pouvait se faire. Donc j'ai demandé une bourse et je suis venue passer une année à l'atelier de création radiophonique. Une bourse au ministère de la Culture, je crois.
Donc ici, à Paris, à France Culture, à l'atelier de création radiophonique, on est à quelle période à ce moment-là qui est marquée?
Début des années 80, par là.
Mais vous, vous disiez que vous alliez devenir enseignante, destinée à devenir prof de français. Vous avez une thèse,
oui,
qui porte sur Guillaume Apollinaire, si je ne me trompe pas.
Apollinaire, Jarry, Rousseau, Roussel.
Est-ce que cette culture littéraire française, francophone, est-ce que vous l'utilisez dans l'écoute de cette radio pendant cette année d'écoute, ou alors vous découvrez autre chose, une autre forme d'expression? Est-ce que vous faites une parenté ou pas?
C'est une très bonne question. Je crois que je l'utilise, ça, mais je suis aussi une créature assez littéraire, quoi, de naissance, presque. Mais je l'utilisais parce que, dans le sens où les quatre dont on parle là, les quatre auteurs, sont un peu à un carrefour d'expérimentation, de liberté, par rapport à de rupture.
C'est l'avant-garde, hein, c'est l'avant-garde du XXe.
Oui, chacun à sa façon a cherché à écrire d'une autre façon. Et il y avait Roussel qui voulait être aimé du public et qui commençait, faisait des extravagances pour l'être, parce qu'il avait les moyens. Mais quelque part, chez les autres, ils s'en fichaient un petit peu. Ils voulaient absolument faire, trouver autre chose, d'autres façons de faire, rompre avec ce qui était convenu.
Et justement, à ce moment-là, il y a une avant-garde à chercher, à trouver, faire partie de quelque chose dans l'expression radiophonique. Quand vous demandez une bourse pour partir à la CR,
est-ce qu'il y avait de ça, la recherche d'une avant-garde? C'était la recherche d'une autre façon de faire. Ce qui m'a tirée à l'atelier, c'était la notion formulée par Truta, la spécificité du son comme matière.
Alain Truta, qui est le fondateur, celui qui a imaginé la CR à la fin des années 60, grande présence à France Culture.
C'est l'idée que une écriture sonore soit possible, et au même titre qu'une écriture sur papier.
l'écriture sonore. Ben, ça va être un fil de cette rencontre avec vous, Kay Mortley, et un fil aussi de nos écoutes, puisqu'on va écouter certaines de vos productions, à commencer par... Parce qu'on était en Australie à l'instant, et c'est aussi une des sources de vos productions à vous, Kay Mortley, ces productions élaborées. Voilà, ça y est, il y a un terme qui a été mis. En commençant donc par une résonance qui date de 2002, une résonance où vous évoquez l'Australie. C'est une réalisation de Manouchak Fashemi. On écoute, ici ce soir, on va écouter... beaucoup d'extraits, parce que vous avez fait des productions qui sont longues, donc on va prendre notre temps ce soir, mais malgré tout avec des extraits, là c'est une résonance entière.
I used to go there sometimes. Tu y allais parfois au printemps, lorsqu'on tond les moutons. Parce que ta mère avait enseigné dans la petite école, au bord de la route. Elle a rencontré ton père. Il vivait dans la vieille maison alors, ton père.
Wood, corrugated iron, glass timber rafters and so on.
Bois, tôle ondulée. Véranda vitrée. Il était fermier.
Qu'est-ce qu'on entend ici?
What can you hear in Stuart Town?
Just cars going past. And birds.
Des voitures qui passent.
Rains.
Et des oiseaux. Puis moineaux, corbeaux. Notre école fut construite à l'époque de la ruée vers l'or. Près du ruisseau où les eucalyptus sont en fleurs.
Ah. Ah. Je vous demande de faire un retour en arrière et de me suivre.
Il m'a fait un coup.
Un certain soir du samedi 25 novembre.
Au secours, au secours.
Je vous demande de faire un retour.
C'est dommage, on n'entendra pas la fin de l'extrait, mais c'est aussi bien comme ça. Il y a trois autres minutes, mais...
Où c'est qu'il est ?
Non, il est revenu au début parce que j'ai cliqué trop l'écran se fait éteint.
Ah, d'accord.
Ouais. Ça, c'est le prochain. Bon, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce qui a été dit? Moi, je dirais, pour commencer, Thomas tombe pile poil. Je déteste parler devant le micro. Et je le fais très, très peu. Alors qu'il y a beaucoup de producteurs de radio qui parlent. Et c'est assez bien vu en ce moment de parler dans ses propres émissions. Et je souligne ce que j'ai dit là, que je pense qu'il y a d'autres façons de parler que de dire je pense. Et le petit bout, la petite résonance que j'ai malencontreusement arrêtée, c'est un exemple très simple de ce que j'aime bien faire, c'est prendre des bouts de réel qui sont presque transparents, mais du son réel qui n'est pas brut, mais qui n'est pas transformé. Moi, j'aime bien prendre des bouts de réel et pas les transformer en autres sons. Je crois que j'aimerais bien faire les transformations de sons, mais ce n'est pas dans mes façons de faire. C'est un peu comme un processus de kaléidoscopique, quoi. Enfin, de les faire miroiter les uns contre les autres, et puis comme un vitrail ou quelque chose comme ça. J'ai jamais pensé à ça, c'est pas vraiment comme ça non plus, mais c'est de mettre les couleurs différentes et de faire un autre récit. Là où Tourmé cherche des réponses, mais ce n'était pas du tout la modernité qui m'intéressait, c'est cette façon de, que j'ai essayé de dire les choses autrement, d'entendre les choses autrement, qui m'intéresse. Et je pense que si je devais essayer de dire ce qui m'intéresse dans le documentaire, ce qui me semble important, c'est d'essayer de dire l'indicible, ou de faire voir l'invisible, ou de faire entendre l'inaudible, de faire rejaillir quelque chose d'éléments tout à fait banal et ordinaire, en les organisant d'une certaine façon. Et comment on les organise, ça c'est très difficile à expliquer. Et je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Mais ce que je dirais, c'est que cette démarche dépend de beaucoup de choses, parce que la radio, à la radio on est moins libre, j'imagine. Je me l'ai dit, que si on fait de l'art, parce qu'à la radio il y a une structure. Dans l'art, je me dis qu'il doit y avoir des exigences plutôt tacites, des exigences et peut-être des modes ou des, je ne sais pas trop. Mais à la radio, il y a une direction, ce qu'ils appellent la direction de la chaîne, avec une ligne éditoriale qui est plus ou moins stricte. Donc c'est très flottant ce qu'on peut faire, et ce qu'on appelle souvent un travail élaboré, c'est légèrement péjoratif, parce que ça veut dire que ça roule pas, ça marche pas en ligne droite, quoi, que ça traficote un petit peu les lignes éditoriales. Donc, et l'autre chose dont il faut tenir compte, c'est que ce qu'on aime en France, on n'aime pas du tout en Allemagne, par exemple. Il y a des exigences complètement différentes en ce qui concerne le documentaire ou l'idée d'un narrateur. Le documentaire allemand est basé sur une forme anglaise, qui est la BBC. Il y avait un narrateur, il y avait des choses sonore entre, quoi, plus ou moins fait entre tissé, quoi, enfin tissé ensemble. Et l'idée du narrateur n'a vraiment jamais disparu. Il faut avoir quelque chose qui sert de narration. En France, c'est moins évident. Si vous écoutez par exemple en ce moment l'atelier de la création, c'est divers et varié, mais il y a souvent un message qui passe. Et plus une narration qu'un récit. Moi, je préfère que ça n'aille pas au-delà du récit. Récit est un terme très commode pour moi. En radio, ça fait moins peur aussi que poème, à la direction, je crois, ou que poétique. Mais un récit, c'est une forme très ouverte, quoi, et qui n'a pas forcément de début, de milieu et de fin. Et qu'est-ce que je... Ah oui, il y a aussi l'attente du public, parce que les publics, les auditeurs fidèles ont des attentes spécifiques à certaines heures et sur certaines chaînes. Mais pour revenir au documentaire, par exemple... Qu'est-ce que c'est qu'un documentaire? C'est plus travaillé qu'un reportage. Un reportage vous dit, vous transmet ce que vous entendez. un peu coupé, un peu arrangé. Mais le documentaire, c'est un genre assez compliqué, assez large. Mais qui a souvent tendance à tendre à l'auditeur un miroir qui dit, voilà, je vous renvoie le réel que vous connaissez, qui va se mirer dans ce miroir. Et vous allez me dire ce qui est mieux, si c'est mon documentaire ou c'est le miroir. C'est un reflet assez fidèle, mais beaucoup plus travaillé qu'un reportage. Mais je crois que le documentaire peut être beaucoup plus large que cela et aller vers les chemins de traverse un peu. Et pourtant, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Je vais vous faire écouter un bout de notre documentaire, donc, qui est une commande des radios allemandes et autrichiennes. Donc, il y avait une double exigence, parce que les Autrichiens n'aiment pas formellement ni comme propos ce qu'aiment les Allemands. Et cette même émission, je l'ai refaite en français. Mais c'est une émission très difficile à faire pour moi, qui concerne une femme qui était peintre, femme que je n'ai presque pas connue, qui est née, qui a quitté Vienne en 1938, donc, parce qu'elle était juive et était obligée de s'enfuir, elle avait été emprisonnée. C'était pas une peintre, une artiste célèbre, mais elle a passé sa vie à peindre. Alors j'ai dû essayer de trouver une forme qui convienne à tout le monde et qui ne remâche pas de la même façon la même période de l'histoire qui a été traitée et archi-traitée. J'avais une autre difficulté, c'était que Lola, elle s'appelle Lola, puisqu'elle était morte, elle n'est pas là. On a réussi à trouver 3 minutes de sa voix dans les archives de la radio autrichienne. Et en fait, je ne savais pas s'il fallait les mettre ou pas. Les Allemands disaient qu'il ne fallait absolument pas. Ça, c'était la preuve de l'existence de Lola, ces 3 minutes. Et moi, j'aurais pu me passer de la preuve. J'ai dû faire une sorte de quasi-narration. Aussi. Je vous laisse écouter le bout et vous allez essayer d'identifier ce qui est la narration. Et l'autre difficulté pour moi, c'était que ma seule matière réelle et vivante était la fille de Lola. Et là, c'était très difficile. Je savais que j'avais quelqu'un qui allait juger de la véracité et du climat émotionnel de cette mère qu'elle avait adorée. Et dont le but était vraiment de faire revivre le travail. C'était extrêmement compliqué, cette tâche. Donc ça, c'est ici, l'émission s'appelle Lola et le fiacre rouge devant l'église votive. Le fiacre rouge... Il y a beaucoup de fiacres à Vienne, comme vous savez sans doute, et elle les a souvent peints. Je ne veux pas vous dire trop, on va regarder les tableaux après, mais pas maintenant. Bon, ça suffit, je crois. Il y va ?
Le son, il est
laissé
sur la
table. Ah oui, le son est coupé. Merde. Attends. Ah, c'est là.
Lola et le fiacre rouge devant l'église Vautier.
J'avais oublié.
Il dit : nous aimions notre pays.
Man liebte die Heimat, man ging dort zurück.
Nous voulions le retrouver.
Aber die Heimat liebte den ja nicht zurück.
Le pays ne rendait pas notre amour. Il s'en foutait.
Die Heimat war schon vollkommen wurscht.
Langsam, Bubi, langsam. Brav. Brav, die Bubi.
Die verlorene Heimat, die man hoffte wiederzufinden, die aber nicht wiederzufinden war, natürlich.
Pays perdu. Jamais.
Voilà, j'habite juste, bah, mes fenêtres donnent sur la gare de l'Est. Ce qui est drôle parce que la gare de l'Est, ça va à Vienne, mes tramways viennent et viennent de Vienne. Tous les tableaux de Lola sont ici chez moi, dans cette chambre, avec les fenêtres donnant sur la gare de l'Est. Donc.
Lorsque le train traverse la frontière suisse, papa jette les clés de son appartement par la fenêtre. Et il voit à la liberté et à l'exil.
Trois personnages.
Drei Figuren.
À la lisière de plusieurs villes. Un homme, une femme et un bébé dans un berceau.
Donc c'est sa mère, son père, et elle dans une espèce de couffin.
Tout est bleu, vert, sauf le rouge.
Son père a une espèce de cravate rouge, comme une espèce de chose sanguinolente.
Sur le cou de l'homme.
C'est pas une cravate, c'est presque comme une blessure.
Comme du sang.
Quant à sa maman.
Et le corsage de la femme.
Et alors on a un chapeau tout à fait extraordinaire.
Et son chapeau.
Est-ce que c'est un chapeau? Je ne sais même pas.
Blanc.
C'est tout rond. C'est sur sa tête.
Le bébé s'appelle Lola.
Voilà.
Here we are, Lola.
Le 30 novembre 1915 est déclaré la naissance de Lola.
Am 30 novembre 1915 wurde registriert die Geburt von Lola.
Fille d'Abraham Moses Fuchs.
Lola, Tochter des Abraham Moses. Fuchs recte Friedfeld.
Et de Sonia.
Jetzt Mutter. Sura Thema, genannt Sonja.
Dans un hôpital du 10e arrondissement de Vienne.
Und an einem hier nicht verzeichneten Datum wurde ihr der jüdische Name.
Lea.
Lea.
Et le nom rituel donné à l'enfant.
Das war ihr Vater, oder?
C'est une photo de son père.
Das ist Lola mit Hazel, oder?
Et ça, c'est Lola avec Hazel.
C'est sehr schön.
On ressent une harmonie.
Es gibt eine Harmonie und eine Ruhe.
Une intimité.
In dem Foto, obwohl sie einander nicht einmal berühren, aber es gibt eine Nähe.
Elles ne se regardent
Man
pas.
Spürt die Nähe. Sie schauen einander nicht an, aber sie sind zueinander geneigt.
Elles se lovent. J'ai une merveilleuse photo de maman. Elle porte une robe de chambre colorée. Elle a dans une main une poêle à frire dans sa main gauche et dans sa main droite un pinceau. Elle peignait tout le temps. C'était refaire vivre son enfance. Elle refaisait vivre son enfance, elle refaisait vivre Vienne. Vienne lui manquait beaucoup toute sa vie. Elle parlait tout le temps Vienne, 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 Vienne. Elle voulait toujours retourner à Vienne, etc. Et maman était vraiment obsédée. C'était vraiment une obsession. Oui. Elle regarde ailleurs.
Sie schaut woanders hin. Das sagt schon sehr viel über einen Menschen, wie er in die Kamera schaut oder nicht schaut.
Ça en dit long sur quelqu'un, sa façon de regarder l'objectif.
Elle regarde ailleurs.
Ou de ne pas le regarder.
Ailleurs ou en dedans, c'est pas un regard où elle te voit.
Peut-être parce qu'elle ne savait pas où elle était par rapport à sa vie.
Un fiacre rouge attend devant l'église votive. Un lustre pend du ciel. Pour le moment, le fiacre est vide.
Bin nach dem Krieg in unsere Wohnung zurückgegangen, ja?
Après la guerre, il retourne à Vienne. Il retrouve sa maison.
Il guckte nur herein und sah da auf unsere Möbel.
Il demande s'il peut entrer.
Und ich sagte der Frau, kann ich nur mal gucken, möchte nur mal sehen, ja? Die Plünderzeit war vorgestern, jetzt ist aus.
Fini le temps des pillages, dit la nouvelle occupante.
Da hat mir die Tür vor der Nase zugemacht.
Elle lui claque la porte au nez.
Elle s'appelait Lola.
Ich bin in Wien geboren.
Elle est née à Vienne.
Mein Vater ist war ein jüdischer Schriftsteller.
Son père était écrivain.
Und Korrespondent von einem amerikanischen.
Et journaliste.
Zeitung der Fernwelt vom Jahre 21 bis 38.
Il est né en Europe centrale.
Er war in Galicien geboren.
En Galice. Sa mère était pianiste.
This is a story.
C'est l'histoire de Lola
Carr. Lola Carr.
Née Fuchs.
Who was born Fuchs.
Est-ce qu'une vie peut raconter une histoire? Est-ce que des tableaux peuvent raconter une vie? Est-ce que des sons peuvent raconter des tableaux? Probablement pas.
Lola was the daughter of Avrupa and Sonia Fuchs.
Lola était la fille d'Abraham et Sonia Fuchs.
She was my blood relation, my first cousin. Our fathers were brothers.
Lily est sa cousine.
So I'll take over.
Leur père était frère.
My uncle went to America for a short time. And he decided that he wanted to become a writer.
Abraham passe un moment en Amérique. Il décide de devenir écrivain.
And he wrote mainly about the way he saw life in the shtetl.
Il écrivait en yiddish. Des récits de la vie au shtetl. C'était un écrivain réaliste.
Le portrait de
Abraham Moses Fuchs.
Portrait.
Portrait de Abraham Moses Fuchs.
Fuchs.
Noir et rouge, surtout noir. Cheveux, lunettes,
tout petit,
regard,
un peu
noir,
solide comme ça, un peu comme un petit fonceur, un petit taureau comme ça.
Er schaut ein bisschen überlegen.
Il a l'air pensif,
aber
un peu macho.
Ziemlich macho-artig.
Un peu agressif.
Das Gesicht, das er hat.
Il a un foulard rouge autour du cou parce qu'il adorait la couleur.
Sicher, also,
tout est noir.
Mode bewusst.
Sauf le foulard.
dieses rote Halstuch, was er da scheinbar trägt.
Il a l'air sombre, l'air d'être en colère.
Strahlt eine Kraft aus, aber nicht Sympathie.
Une colère noire.
So, as I said, that was the... pardon. Bon, je reprends autrement. J'étais en train de penser que, à l'écoute là, vous avez remarqué que j'ai balancé les différentes langues. Et je ne fais pas trop attention. C'est très peu traduit. C'est très, très monté. Pour que... Il n'y a pas de choses qui flottent, quoi. Enfin, c'est juste une idée que j'essaie de capter chaque fois. Et puis, c'est traduit encore moins que ça, d'une langue à l'autre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on comprend beaucoup sans tout dire, quoi. Enfin, ça revient un peu à ce que je disais dans l'émission de Thomas. Donc, quand je fais du montage de paroles comme ça, il y avait des tonnes, parce que la fille de Lola est extrêmement bavarde. J'avais 8 heures ou quelque chose comme ça, peut-être plus. Et je voulais garder juste une idée, mais que ce soit complètement dépouillé, juste quelques mots, chaque fois. Donc, je ne pouvais pas ne pas avoir toutes ces langues. Si j'aurais pu me passer du yiddish, c'est du yiddish qui est là dans la dernière séquence, quand on parle de Monsieur Fuchs. Et j'avais rencontré un spécialiste de Monsieur Fuchs qui parlait yiddish. Je me suis dit, mais c'est trop beau, il faut qu'il en ajoute une autre langue, quoi. Mais la fille m'a parlé en français, la vieille cousine Lily, qui avait 95 ans ou quelque chose, elle parlait anglais, elle ne parlait pas du tout français. Et les Allemands parlaient que l'allemand, le mec qui est dans les archives de Vienne. On est dans beaucoup d'endroits différents, là. Hein? Et c'est jamais dit où on est. Et je crois qu'au bout de 3 minutes ou 5 minutes, on sait qu'on va bouger d'un endroit à l'autre, qu'il va avoir une autre couleur sonore. Et il faut se laisser aller vers cela, sinon on rejette la démarche. Voilà, c'est ça. On est dans un tissu de... Comment je dirais ? De mensonges réels. C'est pas vrai, enfin c'est vrai et c'est pas vrai. On recrée l'espace, quoi. On recrée un espace mental. Alors, le problème étant qu'évidemment, moi je n'ai pas connu Lola, je connais ses tableaux. Mais je ne sais pas ce qu'elle voulait dire dans ses tableaux. Et un des seuls petits bouts de texte qui existe, que j'ai écrit, vous l'avez entendu là, est-ce qu'une vie peut raconter une histoire ? Beaucoup de documentaristes, dans beaucoup de radios et ailleurs, parlent de l'histoire. J'ai une histoire, un sujet. Et je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un récit qu'on a, où on a je ne sais pas quoi. Est-ce qu'une vie peut raconter une histoire ? Est-ce que des tableaux peuvent raconter une vie ? Est-ce que des sons peuvent raconter des tableaux ? Probablement pas. Et je crois que c'est vrai, il raconte autre chose, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a la spécificité du médium qui est inhérente à la proposition. Une vie est une vie, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut mettre en parole. Peut-être que l'art, c'est plus facile. Et là encore, c'est Nathalie Sarraut que j'aimais bien et que j'aimais beaucoup qui m'a dit un jour, ben, les tableaux, les artistes, ils ont des années-lumière d'avance sur nous parce que nous, on n'a que des mots, des paroles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'une banalité extrême. C'est très précis, c'est râler pas crête, quoi, enfin, les paroles, même si la littérature peut être belle. Ce qui me sert de pour les Allemands, il faut avoir un narrateur pour les Allemands aussi parce qu'il faut, pour être payé en Allemagne, il faut fournir un texte. Bon, mes amis sont allemands dans toujours les textes parce qu'ils sont jamais, elles sont jamais uniquement en allemand. Donc la traduction peut servir de texte. Mais je connais plusieurs artistes sonores qui ont voulu donner dans le genre documentaire et on n'a pas accepté le projet parce qu'il n'y avait pas de texte. Ça, c'est des paroles entrelacées. Ce qui m'a servi de texte, à part la traduction, c'était la première voix allemande, le monsieur que vous avez entendu, qui parle sur le cheval, qui parle de quitte et vienne. Début et fin de la séquence. Et en fait, c'est un cinéaste qui s'appelle Troller, Georg Stefan Troller, qui a fait une trilogie intitulée Welcome in Vienna, qui est ressortie l'année dernière. Et le réalisateur est un Autrichien qui s'appelle Axel Corti. Et c'est assez remarquable dans le genre documentaire. C'est l'histoire de Troller, qui est parti de Vienne, il est parti par la Tchécoslovaquie et tout ce qui était très compliqué. Il a rejoint un bateau quelque part, il est allé aux États-Unis. Il est revenu à Vienne pour la libération avec l'armée américaine. Et c'est un très beau documentaire, très dépouillé. J'ai demandé à Troller, il était très difficile à voir, il ne voulait pas le faire. Ça, c'est un autre des enjeux du documentaire. Il est quelquefois très difficile d'avoir la personne que l'on veut si on a vraiment un désir. Les désirs peuvent être aléatoires, mais si on a vraiment l'idée de quelqu'un qu'on veut pour une raison très précise, ça peut poser des problèmes parce qu'on... Il ne voulait pas le faire, ce cinéaste, Troller. J'ai dit, je ne veux pas que vous me parliez de votre film, je veux que vous me parliez de votre époque. Et c'est pour telle émission, cette femme qui a peint, elle a dit, mais non, mais moi je suis un artiste, je veux parler de moi. Et je dis, bon, non, parce que vous avez quasiment exactement le même âge que Lola. Et ce que vous avez montré de Vienne, ça correspond à tout ce que je devine dans ces tableaux. Tous les points importants, quoi. Enfin, et finalement, il a accepté de très bonne grâce. Il parle comme un comédien. Et je lui avais dit avant les questions que je voulais lui poser, les domaines que je voulais qu'il recouvre. Et c'est une chance rare. Donc c'est lui qui m'a servi de narration. Mais mon problème, moi, j'ai trouvé magnifique ce qu'il m'avait dit. Mais mon problème, c'est que les Allemands, ils sont un peu gênés par l'histoire autrichienne de la Deuxième Guerre, parce que c'était les Allemands les occupants, alors qu'ils sont frères linguistiques. Et ce film n'a pas tellement le droit de citer en Allemagne, c'est beaucoup moins connu. Mais en Autriche, il est quasiment trop connu. Donc j'étais un peu tombée entre deux choses difficiles, quoi. Mais il fonctionne. Je crois qu'il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Ben, je l'ai presque dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'essaie de laisser beaucoup d'espace, de créer une certaine transparence, beaucoup d'espace entre les paroles. Ça, ce n'est pas le montage, mais c'est aussi pas la traduction, c'est aussi prorata son voix. Moi, j'ai... Si on compte les paroles à la fin ou si on met les paroles en bout à bout, il y en a vraiment très peu en temps. Et ce cas de figure était bien spécifique. Comme je disais, je pense qu'on a traité, archi-traité le sujet et qu'on connaît l'histoire déjà, avant d'ouvrir la bouche. On connaît l'histoire Et maintenant, c'est vraiment des variations sur un thème donné. Donc, on a juste besoin de donner des phrases très petites, quelques signes, et ça déclenche l'imagination de l'auditeur, j'espère. Et ce serait peut-être ça, mon but dans un documentaire. Pas de donner de l'information telle qu'elle. On peut trouver de l'information dans un livre, ça j'ai décidé, est beaucoup plus complète que ce qu'on peut dire à la radio. Mais de faire réfléchir à des choses, de créer des images dans la tête. Voilà ce qui me semble très très important. Et ça marche ou ça ne marche pas. Il y a des gens qui rejettent le processus parce qu'ils veulent être nourris d'autres choses, quoi. Je vais vous faire écouter un autre petit bout. Alors, c'est lequel? De Lola. Deux autres petits bouts. Ici. À un certain moment, j'ai décidé que je voulais faire jaillir vraiment la réalité, pas la réalité recomposée. Et on avait été avec la fille de Lola, on avait été à Vienne. Et vraiment la seule raison que je voulais aller à Vienne, moi, c'était parce que je voulais aller essayer de retrouver la maison où elle avait grandi. Parce qu'elle le peint tout le temps. Beaucoup, beaucoup d'images du salon. Elle peint toujours beaucoup en rouge et noir. Et le salon que je vous montrerai après, avec le père, la mère et Lola, qui joue du piano. Et en fait, on connaissait l'adresse et j'ai dit un jour, on va y aller. On va frapper à la porte, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais parlé à la directrice du musée juif, parce qu'on savait que l'appartement avait été repris par d'autres occupants, un peu comme c'est dit par le cinéaste de sa maison, dès qu'il a été parti. L'appartement était occupé par les gens qui étaient restés à Vienne. Donc on ne pouvait pas avoir, la famille à qui l'appartement appartenait ne pouvait pas revoir cet appartement. C'était fini. Et je dis, bon, on va retourner voir si on peut entrer et à quoi ça ressemble. Parce que moi, j'avais besoin de le voir et je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est très intéressant parce que je ne pouvais rien en faire. Ça, c'est une sorte de non-documentation du documentaire. Ça commence encore une fois par un tableau.
Lola,
12 ans. 12 Jahre alt.
Autoportrait.
Selbstporträt.
Surtout en rouge. L'autoportrait. Est-il souvenir ou oubli? Si Lola a 12 ans, nous sommes en 1927. Une petite fille maigre dans une robe bleue et rouge.
Dans ce tableau-là, où là, dans les 12 ans.
Assise dans un fauteuil.
Il y a beaucoup de rouge, il y a le fauteuil rayé.
Bleu et rouge. Ses cheveux sont jaunes.
Puis t'as vu ses yeux, hein?
Son regard est étrange.
Faut pas la contrarier, là.
Que voit-elle? Que voit-elle?
And they worshipped her, the parents. They everything poured into this girl.
Ses parents l'adoraient.
She was very attractive.
Lui donnait tout. Elle était belle.
She had lovely hair, long hair. Gold.
De grands cheveux blancs.
And beautiful blue eyes.
Les yeux bleus.
And a very fine chiseled nose.
Un joli nez.
She loved her beauty.
Elle savait qu'elle était belle. Elle allait dans une très bonne école.
She went to a very good school.
À l'école, il y avait des problèmes. Il y avait des prières. Il fallait se lever et prier. Alors elle se levait, mais elle disait rien. Il fallait prier. Il fallait parler allemand. Tout le monde se fichait d'elle, parce qu'elle parlait yiddish au lieu de parler allemand. Elle rentrait en larmes. Son père l'a envoyée dans une autre école. Elle a appris l'allemand. Elle n'a plus jamais voulu parler yiddish de sa vie, d'ailleurs. Elle était scout dans un mouvement sioniste. Elle prenait des cours de ballet.
She loved ballet. And one of the girls there was Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr était dans le même cours.
Did you know about that?
Est-ce que tu le savais? Elle voulait être danseuse. Elle faisait de la danse classique à l'opéra, de la danse expressionniste chez Gertrude Krauss.
C'était une artiste, elle voulait être danseuse, elle était danseuse.
Et quand elle a arrêté de danser, elle s'est mise à peindre. Elle aimait la couleur.
Et puis aussi, elle avait un plaisir avec la couleur. C'est un plaisir assez sensuel de faire de la peinture. Si on ne fait pas d'une façon intellectuelle, mais ce n'était pas son cas.
Elle aimait les couleurs.
C'était vraiment le jet comme ça, ça. Et maman adorait le rouge. Elle aimait le jaune aussi. C'était quelqu'un d'extrêmement solaire. Pour moi, c'était un soleil. Maman était toujours gaie. Elle ne m'a jamais raconté une histoire triste de sa vie.
Et Lola a 12 ans.
La famille déménage au numéro 29, Zamperstraße. Dans le 18e arrondissement de Vienne. C'est une bonne adresse.
La porte de l'immeuble est ouverte. Montez jusqu'au troisième étage.
Fuchs fait rénover, décorer le nouvel appartement. Tapis de Perse. Meubles Biedermeier, vase chinois, un beau piano pour ce mois.
Sonnez à la porte. Une jeune fille ouvre. Nous cherchons la trace d'une femme.
Elle
a vécu ici.
Il y a longtemps. Und es wird über die Mutter von ihr, die eine berühmte Malerin ist, die Lola K., eine Radiosendung, ein Soundportrait macht.
Elle est peintre.
Wir wollten, wir haben Bilder da, wo die Mutter nochmal die Wohnung gemalt hat.
On aimerait visiter l'appartement.
Das wäre eine Frage gewesen, ob man noch kurz mal die Wohnung schaut.
Entrez, je vous en prie, dit la jeune fille. Dans l'entrée, des douzaines de flacons de vernis à ongles.
Was ist das hier? Eine steht auf einem Plakat.
Violet clair, violet foncé.
Nageljacke, dunkelviolette, hellviolette, gelbe. Man bekommt Lust, sich die Nägel
vert,
zu machen.
Bleu, noir, accroché au mur, comme des tableaux.
Ja, an der Decke hängt.
Des vêtements.
Gewand, aber ich denke...
Des étudiants habitent ici maintenant.
Das ist ja eine Art Wohngemeinschaft. Mhm. Aha, es ist eine Wohngemeinschaft. Das heißt, wahrscheinlich Studenten oder Studentinnen leben hier zusammen. Und
wie war der Name? Lola.
Elle s'appelait comment, la femme?
Sie ist hier groß geworden, als Kind.
Ja, donc la jeune fille. Elle vivait ici quand elle était petite? le salon.
Das ist das Wohnzimmer.
Sämmerstraße. Ça, c'était le salon.
Ich war aber nicht dort.
Der Salon.
Rouge. Tout est rouge. Les murs sont rouges, le sol est rouge.
Rouge.
Ma grand-mère est habillée avec une longue robe rouge.
Rouge.
Salon bourgeois.
Ein bürgerlicher Haushalt.
Famille bourgeoise.
Das bürgerliche Leben der 30er Jahre wahrscheinlich gewesen.
Les années 30.
À droite, il y a mon grand-père assis à sa table de travail.
Rouge.
Et donc, il y a ce magnifique tapis persan parce qu'il adorait les belles choses.
Rouge.
Il y a un chandelier.
La mère joue du piano.
Die Mutter spielt am Klavier. Tochter liegt auf dem Sofa.
La fille est allongée sur le canapé en train de lire.
Der Vater schreibt.
Le père écrit.
Il y a deux fenêtres. Par une fenêtre, on voit très bien Tel Aviv, la mer, Jaffa au fond. Et à droite, ah ben je ne sais pas où c'est à droite. On dirait quoi ?
Salon typique d'une famille juive à Vienne.
Dieses schöne Bild von der Wohnung, typische Wiener jüdische Interieur.
Le bureau, le piano, la jeune fille qui lit, les fenêtres ouvertes.
Die offenen Fenster. Genauso sah unser Wohnzimmer aus.
Notre salon était pareil.
Ah, le salon. Das war le salon?
Le plus dur était de tout laisser.
Das ist klein.
Tout est resté là-bas.
Aber das war immer da. Das ist eine Frage, da war.
Tout ce qu'on avait amassé.
C'est très intéressant. Deine Mutter hat es größer imaginiert, als es war.
Je ne parle pas d'argent.
Für mich, das ist sogar die chose qu'on aimait. Unter vielen schlimmen Dingen war eines der schlimmsten, dass man ihr alles zurücklassen musste.
Die chose auquel on tenait.
Alles, was man so zusammengesammelt hat, also seinem Leben, ja, blieb ihr alles zurück. Mhm.
Ja.
Wie heißen Sie?
Wir n'avions plus rien.
Lizzie.
Das ist ein Schock. Nicht mehr zu haben. Also ich spreche ja nicht von Geld, sondern ich spreche von den Dingen, die einem etwas bedeutet haben. Ja? Aber alles weg.
Et puis, le temps a fini par déteindre les couleurs.
Das macht traurig, oder? Weil man denkt, das war früher.
A fini par effriter.
Was ist das? Das Leben, die Zeit.
Rosé.
Rist.
Érodique.
Die Farbe von dem Leben.
Effacé.
Sehr faszinierend.
Tout ce qui est resté là-bas.
Là, ça c'est clair, une chose que je fais souvent, c'est cette espèce de machine que j'essaie de mettre en marche où il se passe plusieurs choses d'ordre différent, en même temps. Il y a plusieurs temps et espaces. Il y a un espace mental, il y a un espace réel, il y a des personnages qui appartiennent à des univers différents. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était d'évoquer, je crois que ça marche peut-être un peu mieux si on écoute en continu, mais de rentrer dans ce salon peint qui n'est pas réel, de le rendre un peu réel à l'esprit de l'auditeur. Mais c'est une écoute un peu compliquée que je demande aussi à l'auditeur. Il faut qu'il s'abandonne à l'univers qui lui est proposé. Et un de mes buts, c'est toujours de l'interpeller, de lui demander de composer, d'écrire le récit en même temps que ça se déroule, de participer à l'écriture par l'imaginaire. Alors comment je fais ça? Je pense que je travaille de la même façon que tout le monde, mais c'est sûrement pas vrai. Moi j'enregistre, j'ai une idée. C'est pas un concept, c'est une idée, moi. Il faut que je propose moi je travaille sur un concept qui me pose beaucoup de problèmes en ce moment, mais je vous en parlerai après. mais j'ai une idée d'un domaine que je pourrais explorer avec des voix, des sons. Mais il faut que ça puisse constituer quelque chose qui s'appelle un sujet pour une chaîne de radio. Et je ne fais jamais rien qui ne soit pas accepté. Je ne fais pas des émissions comme ça pour moi. Donc, il faut que je puisse le formuler sur papier. Et là, encore, les exigences sont plus ou moins extrêmes. Parce qu'il est impossible, avant d'avoir enregistré, de dire ce que tu veux faire, parce que tu ne vas peut-être jamais pouvoir l'enregistrer. Et avant d'avoir construit l'objet, il est impossible vraiment de dire ce qu'on pense faire, qu'il fasse une page, quoi, enfin, ou deux pages, selon les radios. Bon, je fais les enregistrements. Je dois me faire les petites listes de domaines à couvrir, et puis je les monte au fur et à mesure si je peux. Suivant le bon conseil de Robert Bresson, qui est un de mes de notes sur le cinématographe que j'ai lu et relu. Je trouve que c'est à la fois très poétique et très sage, tout ce qu'il dit, enfin presque tout ce qu'il dit. Il dit monte au fur et à mesure, et comme ça tu auras des noyaux de sécurité. On sait qu'on a ceci, cela, et autre chose. Donc moi je monte au fur et à mesure, et je sais que j'ai des bouts que je peux poser, entrelacer, je ne sais pas ce que ça dit encore. Et je les classe un peu systématiquement dans ma tête, ou dans l'ordinateur, ou dans des sessions différentes, ou sur papier, je ne sais pas. Et un jour, je dois me dire, mais je ne me souviens pas exactement, tiens, peut-être que je vais commencer par ça. Et je pose un élément. Et à côté, je fais des petites notes et je dis, bon, ça, je peux mettre ça, et puis je peux mettre ça, et puis ça doit donner ça. Et ça commence comme ça. Mais il faut, enfin, à mon avis, on a toujours su ce qu'on voulait dire. Peut-être pas ce qu'on pouvait dire avec la matière, mais on a toujours su ce qu'on voulait dire, mais on ne le sait pas vraiment avant d'avoir fait. Et c'est en faisant qu'on sait vraiment ce qui est important pour soi. Je ne sais pas si ça fait sens, vous pouvez me poser des questions. Et pour moi, c'est souvent ce qui peut se dire compte tenu d'une certaine qualité sonore ou esthétique que je vis, donc cette espèce de vide ou de transparence, de ne pas encombrer le monde avec trop de paroles, qui, comme je dis, dans le cas d'un documentaire, moi j'en ai très peu par rapport à d'autres personnes. Et une autre chose que je garde toujours très présent avec moi, et c'est peut-être un peu mortuaire, je sais pas, mais le son et souvenir. Le son et le souvenir de moments passés, ou comme Roland Barthes le disait, c'est le ça a été. Et qui donc demande à être traité. Quelqu'un m'a dit un jour, c'était Jean-Pierre M qui m'a dit, avec beaucoup de tact. Mais tact n'est peut-être pas le mot, mais il faut que ce soit bien pesé. Parce que ça a été, et maintenant on le prend, et on le restitue au présent. Et c'est quelque chose de vivant qu'on a pris comme ça, qui est toujours vivant, mais autrement. Quoi. Enfin, c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez lu de Barthes, mais Barthes, il est très difficile à lire, je trouve. Surtout Roland Barthes. 20 ans après, le langage est très difficile, mais il y a La Chambre claire qui est intéressant, je crois, comme livre. D'autres gens en parlent aussi, mais c'est ce fait de prélever du réel, de le capter. Voilà, il est capturé. Et d'en faire quelque chose, de le relâcher après. C'est peut-être ça. dont il faut tenir compte dans un documentaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on jauge, je crois, en l'assemblant pour faire une forme. Mais par rapport à la forme, c'est aussi la matière qui va dicter la forme. Beaucoup. C'est non seulement son désir, mais on ne peut pas torturer infiniment une matière qui est tendre, qui irait dans ce sens-là pour en faire cela. On peut faire plusieurs choses, mais une partie de la forme est contenue dans le type de matière que l'on a. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait des enregistrements à l'Institut des aveugles, l'Institut de jeunes aveugles à Paris. Et on m'a dit des choses incroyables, quoi. Et assez fragile et très sensible, les enfants de. Mais c'est le lieu le plus bruyant où j'ai jamais enregistré de ma vie, je crois. On entend toutes les ambulances qui vont à l'hôpital en face, et on entend le boulevard. C'est un bâtiment du 18e siècle avec des plafonds plus hauts que ça qui résonnent. On entend des coups de musique. Et ça, c'est 4 ou 5 autres histoires mélangées à la fragilité de ce discours qui c'était comme des gouttes de cristal, comme des perles, enfin, ces paroles. D'une transparence incroyable, mais je ne sais pas s'il va pas falloir que je recommence ou bien ça demande. Ça ne se laisse pas utiliser de la façon que j'avais envisagé. J'avais quelque chose derrière la tête, je ne sais pas quoi, mais c'est des paroles posées dans un profond silence, quoi. Donc, une dernière petite partie de Lola, et puis on passe à autre chose. Ça vient de la fin de l'émission qui passe par toutes les phases des tableaux et une partie sur l'Anschluss, sur l'annexion. Enfin, l'occupation d'Autriche par les Allemands qui est basée sur les archives. Ça, je ne ferai pas écouter. Et puis une autre partie basée sur un tableau jeté dehors, où ils sont bannis de Vienne. Et c'est un tableau que je vous montrerai qui est très intéressant. C'est un travail assez expressionniste, mais avec des réminiscences de Chagall un peu. Mais ici à la fin, c'est vraiment. C'est la dernière partie de l'émission, mais je crois que ça correspond aux seules choses que j'allais dire, moi, des tableaux de Lola, vers lesquels j'allais par l'intermédiaire du discours de sa fille. Pour moi, Lola a peint toute sa vie parce que c'est une technique de survie et de laisser vivre Vienne. Et qu'elle est complètement habitée par cette expérience dont elle ne parlait pas. Cette expérience d'avoir été jetée dehors. Parce qu'en fait, ils ont souffert, ils ont perdu leur maison. Ils ont dû partir comme beaucoup, beaucoup d'autres gens. Une patrie a été perdue. Mais c'est tout. C'est beaucoup. Mais ils n'ont pas été déportés. Ils ont été destinés à être exilés. Je crois que c'est ça. Et ça m'a fait penser toute cette histoire de Lola. J'avais fait une émission il y a quelque temps sur la guerre en Croatie qui a produit énormément de poèmes. Et un de ces poèmes que j'ai lu en anglais dit « In fact, nothing really happened to me ». Mais la nuit, je me réveille et je vois Mais c'est une histoire un peu comme ça, qui est une très petite histoire au sein d'une histoire beaucoup plus dramatique. Et c'est pour ça qu'il y a une couleur, je crois, assez calme dans ma façon de la raconter.
Elle s'est mise à peindre sérieusement, vraiment sérieusement, à Tel-Aviv. Et à Tel-Aviv, c'était vraiment... Elle avait son atelier dans l'appartement. Je crois que ça lui faisait le plaisir. Le passé qui redevient présent. En fait, cette peinture raconte, c'est vrai, cette peinture raconte ce qu'elle ne m'a jamais raconté à moi, en tout cas. Non, elle m'a jamais parlé du départ. S'il n'y avait pas le manuscrit de papa, là, je ne saurais rien là-dessus. Papa, sais-tu qu'Hitler est à Vienne ? Il a ri. Hitler, dit-il. Je m'en fiche. Je suis un citoyen autrichien. Je paye mes impôts. Je ne prends rien à personne. Je ne dois rien à personne. Mais papa, tu ne crois pas qu'on devrait partir?
Lola et ses souvenirs.
Lola und Erinnerungen.
Lola est au salon. Le salon est rempli des villes de Lola.
Paris. Il y a Zempestrasse.
Vienne.
Le salon.
Tel Aviv.
Tel Aviv.
Londres. Un lustre pend au plafond. Au mur, des portraits de Sonia et Fuchs.
Et au milieu, il y a cet oiseau rouge.
Un oiseau rouge traverse la pièce. Un aigle.
Un aigle avec des griffes. Sous ces griffes, il y a aussi comme un petit tableau avec une procession funéraire.
Sur la porte du fiacre, un aigle à deux têtes.
Avant de quitter Vienne, il écrit son nom sur un poteau.
Kurz bevor ich wegging von Wien, habe ich im Rathaus meinen Namen eingekratzt in eine Säule.
À son retour, il essaie de le retrouver.
Da ich dann zurückkam, habe ich versucht, es wiederzufinden, aber die hat natürlich alles längst abgewaschen.
Mais il a disparu. Il y a longtemps.
Et un jour, elle avait les cheveux blancs. Je sais pas, ses cheveux sont de blonds, sont devenus blancs. Sans passer par le gris, comme la plupart des gens. Et puis... Une fois que papa soit mort, je l'ai ramené ici avec Léo, le chien. J'étais un peu fâchée avec papa quand il est mort. Je me suis dit qu'il exagérait de me laisser avec toute cette responsabilité. Parce que maman ne s'est jamais occupée de rien. Elle ne savait pas faire un chèque, maman. Elle ne savait pas payer une facture. Elle savait absolument rien de ce qui est pratique, rien, mais rien. Et papa faisait tout. Et quand elle était ici, quand peu d'années avant sa mort, et que par moments elle divaguait un peu, elle se mettait à l'appeler. Maurice ! Maurice ! Quand elle avait un problème, c'est Maurice qui devait résoudre le problème.
Je disais, il n'est pas là, il est en Israël. On va lui téléphoner. Des fois, elle appelait Maurice, des fois, elle appelait maman. Maman, elle disait, je vais être en retard à l'école. Maman. I'm going to be late to school. Donc elle est repartie dans son enfance.
Le rêve.
Der Traum.
Le salon à Vienne. Des fenêtres noires.
Alors on voit une servante.
Une servante.
Une jupe rouge.
Un chien. Noir et blanc.
Au premier plan, il y a un chien vu de dos.
Un berceau.
Après, il y a un berceau. Et dans le berceau, on dirait une femme miniature.
Des clés.
À gauche, un espèce de trousseau de clés énorme, pend au plafond. Et à droite, un espèce de chapeau haut de forme.
Un chapeau haute forme.
Et le plancher est mouvant.
Le plancher ondule comme les vagues de la mer. Un fiacre rouge attend devant l'église votive. Le fiacre prend la route verte jusqu'en haut de la toile. Puis, il revient au point de départ.
Voilà, donc ça c'était la fin de Lola, où j'avais, suite au tableau qui s'appelle Le Rêve, j'avais fait une sorte de bulle sonore, mais tous les sons avaient déjà été utilisés dans des parties de l'émission. Parce que pour moi, ça, bon, je fais quelquefois des choses comme ça, indépendamment, mais dans ce documentaire, je ne mets pas partie. C'est censé être un rêve qui est peut-être un cauchemar où il y a les mêmes choses qui reviennent tout le temps, les mêmes choses qu'elle peigne. Et par rapport à la musique, moi j'ai fait exprès de travailler dans des clichés de musique là, vraiment dans une gamme viennoise. Il y a du Schoenberg, il y a du Schubert et il y a. Attends, il y a une troisième chose, il y a du Strauss. Et j'ai décidé de travailler dans des clichés, vraiment des clichés musicaux. Mais je coupe et découpe la musique très souvent. Je pense que le compositeur ne l'aimerait pas beaucoup, surtout Schoenberg, où j'avais fait des montages de ces petites notes. Mais ça, dans le documentaire, ça pose toujours un problème. Le problème, il y a deux écoles. L'une, c'est que la musique, ouais, il y a trois. L'une, c'est que la musique peut avoir une fonction, et même les chansons, que le texte peut être intégré dans le récit, genre Jean-Luc Godard. Enfin, et ça, je le fais assez volontiers. L'autre, c'est que la musique, il ne doit pas y en avoir, sauf c'est la musique, ça c'est Bresson, mais il y a beaucoup de gens comme Daniel Dehay et d'État qui disent que la musique doit provenir seulement de situations réelles, quoi. On trouve un orchestre au coin de la rue et ça va, mais si on trouve la même musique sur un CD, ça ne va pas. Qu'il faut que ce soit produit dans le même espace de réalité. Mais moi, je considère que la musique, c'est une autre matière sonore. Pour moi, c'est l'équivalent des sabots de cheval, ou quelque chose comme ça. Seulement, son message est beaucoup plus codé. Et mais il y a beaucoup de gens qui utilisent la musique comme sorte de colle acoustique. À la radio, c'est très fréquent, ça colle les morceaux ensemble. Mais moi, je veux bien que la musique parle, et parle fortement avec son propre message, quoi. On regarde les diapos là, ou à un autre moment, où je continue, ou est-ce que vous n'avez pas des questions à me poser? Non? Vous êtes fatigué?
J'ai une question.
Oui.
À un moment donné, on entend une voix qui est filtrée. Est-ce que c'est...
Laquelle?
La voix d'une femme.
Celle qui est dans le téléphone?
Oui.
C'est Lola. C'est parce que c'est une archive qui date de 50 ans. Et c'est par téléphone. Non, je n'ai pas fait exprès. Non. Et donc il fallait jouer frontalement, quoi. C'était enregistré dans les années 80, je crois. L'entretien avait été monté.
Oui.
Et bon, pour moi, ça, je pensais que ça pouvait se passer parce qu'on savait qu'elle n'était plus là et que ça faisait passage de temps. On devinait tout de suite ce que c'était. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé? Si on avait fait
exprès. C'était pas tant sur le contenu, en fait, du message que sur la forme qu'avait le passage. Parce que justement, j'avais du mal à comprendre comment ça aurait pu être une voix qui avait été transformée. Par rapport à ce que vous disiez,
voilà,
sur l'idée de retranscrire.
Et raconter le départ, quoi. Oui.
Voilà.
Mm.
Du coup, voilà, c'était comme ça au départ. Donc,
Il doit y avoir beaucoup de voix filtrées, mais c'est pour ça que j'ai cherché un moment. Beaucoup de voix filtrées, mais pas audiblement, quoi.
Une autre question que je me posais, c'est vous êtes à chaque fois présente, en fait, sur les lieux du tournage.
Non, c'est moi qui ai fait la plupart des sons.
Comment vous vous placez, en fait, dans ce contexte de...
Comment je quoi?
Comment vous vous placez, au sens physique, dans ces contextes-là, et si vous, du coup, si vous manipulez le microphone, comment est-ce que... Voilà, vous jouez avec cet objet qui a une présence et qui aussi est un signe.
C'est une question de comment je me sens le jour que je fais l'enregistrement en général, ou la difficulté de la personne, enfin les difficultés posées par la personne que j'enregistre. Par exemple, le cinéaste autrichien, c'était comme Huber, une fois que je l'avais convaincu à parler. Il était parfait, il ne bougeait pas, il parlait correctement, il est habitué. Il est très vieux, enfin, mais il fait de la télé ou quelque chose tout le temps, des chroniques. Alors, la fille, ça a duré assez longtemps. Hein. Non seulement il y avait beaucoup d'heures d'enregistrement, mais c'est pas le bon.
Je cherche.
Ça c'était très difficile parce qu'elle tournait la tête et puis je voulais avoir les tableaux devant les yeux parce qu'elle les connaît par cœur et elle ne pouvait pas les dire, quoi. Et elle a toutes sortes d'histoires par rapport au tableau, mais pas le contenu du tableau. C'est tout ce que je voulais. Et donc, on a dû se mettre dans une pièce petite parce que le devant de son appartement donne justement sur la gare de l'Est, à Paris. Ça met tous les rails et c'est vraiment la fiesta de bruit de train. On a dû se mettre derrière dans une pièce où, visiblement, il y avait un lit. Et les tableaux sont assez grands, on les mettait comme ça. Et c'était pour qu'on s'assiste très grand. Donc ça faisait que il n'y avait pas assez de place pour moi de me mettre en face d'elle. Ça c'est très embêtant. Il fallait que je lui dise tout le temps de se tourner. C'est un peu gênant parce que ça. Mais dans d'autres cas, qu'est-ce qu'il a pu y avoir? Les autres, j'ai moins compliqué, je crois. L'entretien avec la vieille cousine Nelly. J'ai demandé une amie finlandaise à Tel Aviv de le faire. J'avais essayé d'avoir des sous pour aller à Tel Aviv. Je ne voulais pas y aller pour autre chose. Et donc, puisque je connais cette fille finlandaise qui a fait pas mal de radio en Finlande avant d'aller vivre là, elle a fait Lily. Mais le reste, tu fais. Et il y a les voix studio, évidemment. Les voix qui sont des traductions en des différents studios. Il y a une voix qui est intéressante, et je ne sais pas si. Je n'avais pas pensé que ça marchait bien. Une voix un peu cassée. Ça me marque une voix un peu cassée. C'est une comédienne qui s'appelle Delphine Saki, qui a fait. Un atelier de création radiophonique, vous allez pouvoir le trouver sur le site de Culture. Ça s'appelle Voix intérieure. Et en fait, il y a eu des polypes sur les cordes vocales et c'est très mal diagnostiqué et ça a duré 6 ans. Et c'est une œuvre qui est assez intéressante avec laquelle elle travaille avec un compositeur, un travail électro-acoustique. Et elle a fait un spectacle aussi avec une mission de la vie. Et je pense que j'ai quelque chose, bien que ce soit une vraie diction de comédien, c'est quelqu'un qui joue les classiques. Amélior et tout ça. Il y a quelque chose de cassé dans le voix qui m'intéressait beaucoup. Et c'était d'ailleurs la première chose qu'elle avait faite depuis. Cet incident, mais elle n'osait pas jouer. Elle est beaucoup mieux à la fin qu'au début. Elle m'a dit qu'elle était pétrifiée parce qu'elle ne peut plus jouer à cause de l'incident médical et qu'elle pensait qu'elle n'allait pas pouvoir faire une des voix. Sinon, il y a beaucoup de voix non professionnelles.
Et les personnes que vous associez faire les traductions en fait.
Oui.
Est-ce que vous écrivez au préalable les textes?
Oui, je avec du moins de mots possible. Et avec des phrases les plus courtes possibles. Et comme ça, je calcule là où on peut les mettre par rapport à la langue de base. Mais pour garder vraiment le moins de langage supplémentaire et qui ne dit pas exactement ce qu'il dit dans la langue originale. Donc, parce que je trouve que c'est extrêmement ennuyeux si on comprend du sur l'anglais et le français, ben, on donne exactement la même chose.
Oui, c'est dans le même sens du coup.
Oui, voilà. Et on peut ajouter autre chose en anglais derrière sans que ce soit trop. C'est pas une vraie traduction.
Moi, je me demandais pour des gens comme ma fille de là, par exemple, qui parle beaucoup. Comment ça se passait au niveau de la. Est-ce que vous la dirigez un peu? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a quelque chose qui vous a intéressé dans ce qu'elle a dit, mais qu'elle l'a dit en bougeant, vous allez le répéter? Ou alors est-ce que vous allez respecter le. Une fois que c'est dit, je vais pas. Enfin, vous respectez le côté de
la chaîne. Je redis à des trucs.
Ouais.
Mais. Elle, c'était hyper difficile. Et donc, j'ai laissé. Je faisais ce travail de montage, j'ai essayé 6 semaines ou quelque chose, et puis
Et je pense que, parce qu'il y a beaucoup de voix différentes, il y a les passages de Lola que vous avez entendu, le portrait de M. Fox, un des premiers tableaux. Il y avait des voix qui disaient des choses qui me semblaient importantes, en allemand, en français et en anglais, et j'avais eu du mal à les associer. Et je sais que ça m'a pris très longtemps, et c'est parce que c'est enregistré de façon différente aussi. Et que les voix n'allaient pas ensemble. J'ai trouvé cette émission extrêmement difficile à faire avec beaucoup de lettres. Et c'est aussi parce que je ne me sentais pas tellement autorisée à toucher à certaines choses, quoi, à cause de la fille.
Vous voulez dire certains sujets ou
c'est pas exactement le sujet ou les façons de le dire, des présentations. Donc j'ai dû me mettre à côté de moi-même pour le faire. Je ne sais pas ce que j'aurais fait autrement. Mais on montre les tableaux qui sont... Alors ça s'appelle Lola, tableau Lola ou Lola.
C'est sur la clé.
Comment est-ce qu'on le... Attends. Clé. Voilà, c'est ça. C'est le... Voilà, c'est ça. Alors, peut-être le baby Lola, c'est celui que j'appelle trois personnages. Oh, pardon.
Celui-là.
Ah, c'est pas très beau. Elle les a renvoyées, elle les a redimensionnées. Et je crois que...
C'est moyen. Attends. Ah oui, c'est redimensionné, mais oui, du coup, si tu avais la même définition, sinon, oui.
Mais on fera pas mieux. La définition n'est pas bien, mais on peut les regarder là et puis après là, si vous voulez.
Ouais, ouais.
Mais. Ça, c'est un peu expressionniste, mais pas tant que ça. Mais il y a une espèce de forêt dans le fond. Il y a un chapeau absolument incroyable. On ne sait pas ce que c'est. Et puis, elle avait l'habitude
Elle dessine souvent des bébés comme des poupées désarticulées ou puis là, mais il y avait toujours des rouges. Et là, autour du cou, comme c'est dit dans l'émission, c'est comme une traînée de sang. Ça, c'est mystérieux, comme peinture. On va voir s'il y en a un autre qui... Lola Little Girl, on va voir ce que ça donne. Ça, on a entendu. Oui, c'est mieux. Et c'est ça, c'est un autre portrait. Est-ce que c'est un souvenir ou un oubli? Elle est blonde, elle a des gros yeux qui mangent l'espace toujours, dans, chaque fois qu'elle se dessine. On voit que c'est un salon bourgeois, c'est un des tableaux du salon. Et elle porte la petite robe autrichienne, le dirndl, parce que c'était la flambée du nationalisme et des vêtements folkloriques. Mais il y a plus expressionniste encore, je crois.
Là, elle se dessine à l'âge qu'elle a.
12 ans.
Donc elle a peint à 12 ans.
Ah non.
Plus tard.
Elle a commencé à peindre assez tard, quoi, vers 45. Non, plus. Elle a gardé tout ça à l'intérieur et puis elle n'a pas cessé. Elle est morte en 95. Alors, Dance Class, j'aime beaucoup. Je trouve que. Voilà. Ça, on n'a pas entendu. C'est une séquence qui marche assez bien. C'est très étrange. Et là, comme je vous ai dit que j'avais bien travaillé avec des clichés, je crois. La valse viennoise, c'est l'archi-cliché, quoi. Et ça, c'était l'autre raison pour laquelle je voulais aller à Vienne. J'étais sûre que j'allais pouvoir enregistrer des valses. Et tu vois, c'est un travail de documentariste extrêmement mineur, hein, ça, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai demandé à mes copains à la radio autrichienne, et il y a un endroit qui s'appelle Studio de danse Elmayr. Et tout le monde que je connais, tous les Viennois que je connais, sont passés par le studio de danse Elmayr. Et j'y suis allée, mais il y avait des, je dirais 200 jeunes gens, de jeunes filles, de garçons qui apprenaient des valses viennoises. Les garçons portaient des gants blancs. Et j'enregistrais ça. Là, par rapport à l'enregistrement, j'ai demandé à deux jeunes qui travaillent dans le studio de danse de valser pour moi sans musique, parce que la musique était abominable. C'était une cassette et il y avait trop de bruit. Mais c'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. Et de compter. Et le comptage de la valse se marie très bien avec les pas de loi nazis et des choses assez menaçantes. Et ça, je sais que je l'avais derrière la tête. Et c'est utilisé dans la dernière séquence. Je savais que ça allait faire un double sens. Et c'est souvent des choses comme ça que je cherche sans exactement les savoir.
Vous dites que ça ressemblait à quoi? J'ai pas compris.
Pas de loi.
Pas de loi. Alors les deux, on regarde deux ou trois autres, pour faire un changement d'activité parce que c'est...
Donc il reste...
Le dream et c'est l'ensemble. Anschluss, c'est intéressant, et c'est, je veux dire, ça on n'a pas écouté, mais c'est pas grave. Donc l'arrivée d'Hitler et l'annexion d'Autriche. Ce qui est très intéressant là, c'est les haut-parleurs. Et c'est une séquence que j'ai faite Mais il y a un peu de paroles, mais c'est quasiment uniquement des archives de la radio autrichienne. L'arrivée d'Hitler, des reportages, et puis à ce moment-là, la voix de Lola par téléphone intervient encore, et ça fait sens, on sait que ça fait partie du même schéma sonore, quoi. Mais ça, c'est terrifiant, ça. Si elle a pas ça, je sais pas, 40 ans après, c'est assez marquant. Et ça, on sait très bien où c'est, ça s'est passé, c'est dans une de ces grandes places à Vienne, mais avec des arbres. Et ça, c'est la foule, je crois. Mais on ne sait pas trop ce que c'est suggéré, c'est effrayant. Et la fille dit des choses intéressantes là. Elle a dit que ça respirait du bruit et de la fureur. Et que même les arbres étaient furieux. Et puis, jeter dehors, c'est assez intéressant aussi. Je dirais là aussi, parce que j'avais pensé le faire et je pense que j'aurais pas pu, compte tenu de mes organismes producteurs, que ça peut se traiter sonorement uniquement, quoi, à mon avis. Mais autre chose sera dit. C'est ça. Moi, j'avais le projet de faire ça uniquement, peut-être avec des archives et autre chose. Et. Il y a très peu de paroles, mais il y a un petit peu, quoi. Dans la partie qui appartient à cette œuvre. Parce que quelquefois, on m'a dit, et par rapport à votre travail, c'est ridicule ce qu'on me dit, mais on m'a déjà dit, mais qu'il faut dire quelque chose, hein. Attends, jeter dehors, il y a ça. Voilà, le dernier. Ça, c'est une représentation que je trouve assez intéressante de l'état des choses. Et cette partie-là, on n'a pas écouté aussi, mais vous voyez, il y a une fenêtre sur la droite, entourée de jaune. Et il y a deux personnages assis dans la fenêtre. Ensuite, ils sont jetés dehors, devant l'église. Et il y a tout ça est entouré de jaune. Et il y a les fleurs jaunes. Et l'église, normalement, a détruit cette église. Mais parce que c'était maintenant occupé par les national-socialistes autrichiens, il y a un drapeau autrichien qui remplace une des tours. Alors, est-ce qu'on a tout vu? Elle m'a pas mis le. Le Dream, c'est bien, mais elle n'a pas mis le. Je l'ai ailleurs, le fiacre. Mais on regarde le Dream. Ça, c'est le dernier. Dans le dernier truc qu'on a écouté. La dernière séquence, je veux dire. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le rêve. Elle s'est trompée.
Ah. Ouais. C'est pas la peine?
Non, c'est pas la peine. Mais j'ai l'autre. Est-ce que les autres peuvent
Attends. Oui, ça c'était très peu. Alors. Fiacre in Vienna. Ça c'est.
C'est la même.
Non, il y a une qui est Tiff et une autre qui est. Ça, ça change. La reprend. Non, c'est pas bien ça.
C'est l'autre.
Non, l'autre c'est pareil. Et Fiacre seul peut-être. Ça, je trouve assez terrifiant. C'est un des fiacres parce que c'est comme si le monde explosait. C'est tout. Elle, avec son penchant de rouge, et en même temps, c'est assez poétique. C'est comme s'il y avait peut-être la mort. C'est noir. On peut lire là-dedans tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est assez terrifiant. Et il y en avait un autre que j'aurais voulu. Le rêve. Attendez. Ah, mais Journey, ça c'est bien. Ça c'est le. Alors, ça. Ça correspond au dernier texte. Il y a le fiacre qui revient. Et elle peignait dans ses tableaux, je n'ai pas beaucoup dit dans les séquences qu'on a écoutées de l'émission, elle peignait toutes les villes qu'elle avait habitées. Alors, je pense que c'est Vienne sur la droite. On avait pensé que c'était Paris sur la gauche, que c'est peut-être Londres là, que c'est Tel Aviv là. Et Jérusalem là, et il y a quelque chose de plus lointain qui semble être l'Europe de l'Est, et comme si elle portait toutes ces villes dans sa tête. Mais cette idée me plaisait beaucoup. C'est dans la même idée que Jerry, quoi. Enfin, cette Pologne qui est partout et nulle part, un lieu vrai qui est partout et nulle part, donc on le recompose. Et c'était une sorte de tentative de faire ça, une sorte de. Oui, c'est ça. J'allais dire que c'est une sorte d'ubiquité aussi, de sa part, elle est partout, mais c'est vraiment pas ça, c'est plus vestigial. C'est des couches et des couches de souvenirs qu'elle met à plat. Et bon, c'est toujours les mêmes fiacres, elles viennent. Mais ça a quelque chose de funèbre, je trouve, non? Et il doit y en avoir, oups, en avoir encore un. Qui est le rêve?
Oups. Ouais. Donc.
Il n'y a pas le rêve. Non.
Non.
Non. Oh, c'est dommage, le rêve, c'est très bien. Mais enfin bon, il n'y a pas la rêve. Bon, ça va. Vous avez une idée des tableaux de Lola?